On a coutume depuis quelques années de parler d'ubérisation pour expliquer la remise en cause du fonctionnement d'une activité. Pour le tourisme, il existerait un néologisme tout désigné, à savoir l'Airbnbisation. Tant cette plateforme américaine de location d'hébergement de court séjour a révolutionné le secteur. En particulier en France, Airbnb annonçant 400 000 hébergements disponibles dans notre territoire au 1er janvier 2017. Toujours selon la société américaine, 8 300 000 voyageurs ont eu recours à ces services en France, donc en 2016, où ils auraient dépensé en tout 6,5 milliards d'euros et soutenu 30 000 emplois. Un impact non négligeable, donc, dans notre pays où le tourisme représente plus de 7% du PIB. Si 300 000 propriétaires profiteraient en partie de cette manne, la transformation de ce secteur n'est pas sans conséquences. Et d'abord pour l'immobilier, de nombreux logements sont transformés en hébergements touristiques saisonniers, réduisant ainsi l'offre locative de long terme pour ceux qui vivent sur place. L'activité provoquerait par ailleurs une inflation du prix au mètre carré dans certaines villes. Dans certains quartiers, l'omniprésence de ce type d'hébergement fait reculer le nombre d'habitants et les activités et services dont ils ont besoin, au risque de ne plus avoir que des commerces liés au tourisme, à l'instar de grandes destinations touristiques comme Venise, et de voir la population manifester contre l'invasion des vacanciers comme l'ont connu ces derniers mois Barcelone ou Lisbonne. Se pose donc la question des conséquences de ce boom de l'hébergement touristique dans certaines agglomérations urbaines, de l'équilibre entre développement économique possible et dégâts sociaux potentiels. Alors, faut-il limiter cette activité? Si oui, dans quelle mesure et de quelle manière? C'est ce dont nous allons débattre pendant cette heure.
Le débat de midi. Didier Siamour sur France Inter.
Et nos débatteurs du jour sont ici présents en studio avec nous. Claude Verrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, vous êtes surtout vice-président de l'association Vivre le Marais dans le 3e arrondissement de Paris et trésorier de cette association. Aurélien Malfay, bonjour.
Bonjour.
Vous avez vous confondé avec vos frères Le Quai Homes, plateforme de gestion de services pour les locations à court terme, ce qu'on résume par un site de conciergerie, c'est ça ?
Avec un frère et un ami, tout à fait.
D'accord. Et au téléphone avec nous, Didier Arinaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de ProTourisme, un cabinet d'études dans le tourisme, justement. Et puis nous entendrons Christian Biancanello, qui préside Clé Vacances, l'organisme qui labellise et accompagne les gîtes et chambres d'hôtes. Alors nous avons naturellement sollicité la filiale en France de Airbnb, un coût incontournable dans le marché de l'hébergement touristique. La France est même son second pays après les États-Unis et Paris, son premier marché local. Mais après avoir accepté le principe, ils ont décliné notre invitation, nous le regrettons naturellement. Messieurs, une petite question pour commencer. À titre personnel, avez-vous voyagé déjà ou hébergé dans le cadre d'une activité comme celle dont nous allons parler? Claude Verrier.
En ce qui me concerne, non. Ce n'est pas par refus systématique ou parce que je trouve la formule désagréable, mais c'est parce que je préfère l'hôtellerie, les prestations d'hôtellerie traditionnelles et être dans un encadrement qui existe, si vous voulez, que de tomber un petit peu au hasard dans des locations simplement vues sur Internet. Et en plus, je suis un peu opposé au principe de ces locations dont on parlera plus tard.
On va en parler, on va y revenir.
Donc je vais pas alimenter le système, si vous voulez,
que
par
vous
mon
dénoncez.
Propre comportement. Voilà.
D'accord. Aurélien Malfay, alors vous avez développé une activité autour des services comme Airbnb, mais vous-même, à titre personnel, est-ce que vous avez voyagé? Ou est-ce que vous avez des logements que vous louez via ce type de plateforme?
Alors je vais pas vous surprendre, mais oui, bien sûr. J'ai démarré comme ça en hébergeant. Quand je travaillais à Londres, je louais régulièrement mon logement à Paris. C'est ce qui nous a emmené à créer la société. Et côté voyageur, je l'utilise beaucoup. Ça veut pas dire que je l'utilise exclusivement. Quand c'est des petits séjours, j'aime aussi l'hôtel. Pour quand il s'agit d'une ou deux nuits, mais quand on part entre amis, qu'on est 6-7 personnes, là c'est impérativement le choix d'Airbnb qui s'impose.
Didier Arinaud, vous, à titre personnel, est-ce que vous êtes utilisateur de services comme Airbnb ou hébergeur?
Alors oui, j'ai été utilisateur d'Airbnb, puisque dans notre cabinet ProTourisme, le but c'est de connaître l'ensemble des modes d'hébergement et de consommation touristique. Je dois vous avouer que je ne suis pas opposé à Airbnb et que Je trouve que c'est une formule qui répond aux attentes d'un certain nombre de clientèles, et notamment lorsque nous sommes très nombreux, ce qui était souvent le cas lorsque j'ai fait cette réservation. Le problème, ça n'est pas le problème d'Airbnb en tant que tel, c'est le problème de l'équité et c'est le problème de l'équilibre. Donc on y reviendra certainement, mais je dois vous avouer que depuis quelques temps, et compte tenu du développement exponentiel et des nuisances potentielles pour les destinations, je pars dans d'autres formes d'hébergement et j'essaye effectivement de ne pas alimenter un système qui, de mon point de vue, ne participe pas au développement économique de nos territoires à la hauteur de ce que ça devrait être, et qui ne paie ni les charges, ni n'a les mêmes contraintes que celles des professionnels du tourisme, avec une véritable concurrence déloyale. Mais c'est aussi le problème de ce que l'on appelle les plateformes à coût marginal nul, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont développé le système et la plateforme, ils n'ont pas besoin, en augmentant leur chiffre d'affaires, d'embaucher du personnel supplémentaire, ce qui n'est pas le cas d'un hôtelier. Un hôtelier, lorsqu'il a plus de touristes, il embauche plus de personnes, il a plus de charges. Or là, c'est juste une plateforme qui prend sa marge, mais c'est un peu cette nouvelle intermédiation, c'est la même chose pour Uber, de cette économie en parallèle avec des marges tout à fait considérables, mais sans retour pour la collectivité, en tout cas sans retour suffisant pour la collectivité.
Eh bien écoutez, heureusement que ce n'était qu'une question personnelle, parce que vous avez déjà mis bien les pieds dans le plat.
Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau. Je viens de la terre du milieu, où y a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place. Julien Clerc dans le monospace, je freestyle et dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau. Moyen du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais pas la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau. Il fait beau, mais il fait quand même beau. Il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi.
L'un est originaire de Caen, hein, Aurel San, l'autre de Bruxelles, Stromae. Il n'y a pas que la musique qui les rapproche, il y a également, c'est du moins ce que moins vrai cet été, il y a la pluie. Un titre choisi par Elsa Béranger en charge de la programmation musicale de l'émission. Celle-ci est réalisée par Stéphane Ronxin, assisté de Luc Availlant et Gilles Gaillard à la technique. Elle a été préparée par Fanny Cohen-Moreau et Aurore Mansi.
Ce qui a été hallucinant, c'est la différence entre 2015 et 2014. C'est le moment où Airbnb a explosé, a fait des campagnes de pub et de com. Ils ont une communication béton. Moi, je rentre plus d'argent, enfin, et je brade les prix. pour pouvoir remplir un peu.
Faites votre lit. Faites la cuisine. Enfin, tout ce que vous faites d'habitude. N'allez pas à Los Angeles. N'allez pas à New York. Vivez là-bas.
J'ai mis mon appart sur Airbnb.com.
Parfois, je respire bizarrement. Mais aujourd'hui, c'est... Comment t'as pu? Et puis, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour inviter des inconnus dans notre précieux quartier? Ce sont des hipsters, des bourgeois qui font gentrifier le quartier.
Pour crier leur colère, ces Barcelonais n'ont pas choisi un lieu au hasard. Sur la plage, au milieu des vacanciers, ils dénoncent le tourisme de masse.
Les touristes qui viennent louer des appartements et nous ennuyer peuvent rentrer chez eux. On n'en veut pas.
J'aime ce quartier et je veux qu'il reste convivial et chaleureux.
Où que vous soyez, arrêtez de visiter. Vivez là-bas. Même si c'est juste pour une nuit.
Le débat du midi. Didier Siamour sur France Inter.
Vous l'avez compris, nous parlons de la location de courte durée pour les touristes, une activité en pleine expansion en France, un deuxième pays en termes d'offres pour le leader de ce secteur, Airbnb. Le phénomène concerne surtout les grands centres urbains, à commencer par Paris et sa région, qui proposeraient près de 80 000 hébergements sur la plateforme de réservation. Alors, est-ce qu'on peut parler à cause ou avec Airbnb, d'invasion touristique et de baisse des locations de longue durée? On voit un certain nombre de chiffres circuler. Donc, on dit par exemple qu'il y aurait eu 20 000 logements en moins sur Paris en 5 ans. Claude Verrier, vous qui habitez dans le Marais, qui défendez ce secteur, est-ce que vous avez pu déjà vous en rendre compte?
Alors, absolument. Et le phénomène s'aggrave d'année en année. C'est à peu près une dizaine d'années que cela a commencé et on s'aperçoit qu'il y a une forte accélération. Pour deux raisons. La première, c'est que il semblerait que le rendement locatif est très très appréciable par rapport aux traditionnelles locations d'un an et plus, par exemple pour le meublé, ou en appartement vide avec les baux de 3, 6, 9. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il semblerait que beaucoup de gens louent, j'allais dire, de manière sauvage, sans respecter la législation et la réglementation, tant pour la ville de Paris, mais tant aussi au niveau national, qui est relativement bien faite et relativement stricte, mais qui est au fond un peu difficilement applicable dans la mesure où il n'y a pratiquement aucun contrôle.
On va y venir.
En matière claire.
Qu'est-ce qu'elle dit, là, cette législation?
Alors, cette législation fait un distinguo entre la résidence principale et la résidence secondaire. Une résidence principale peut être mise en location sans démarche particulière, si ce n'est se déclarer par Internet auprès du service de la ville de Paris, en charge de logement, et c'est une déclaration, j'allais dire, sur l'honneur, selon laquelle c'est votre résidence principale et vous pouvez faire de la location à titre onéreux. Là, il ne s'agit pas d'échanges pour des vacances entre amis ou habitant aux États-Unis ou ailleurs, à titre onéreux pendant 120 jours. Mais c'est vous-même.
Maximum
120 jours. Mais c'est vous-même qui êtes le comptable de date à date de ces 120 jours que vous pouvez fractionner. C'est 4 mois. Pour des locations de résidence principale, donc, où le propriétaire est absent ou pendant cette location, ça fait quand même 4 mois, si on compte des week-ends, si on compte des locations qui durent maximum une semaine, cela fait quand même pratiquement 20 ou 25 rotations, si la personne fait le plein pour les 20 jours. Donc déjà là, il y a, à mon avis, un excès. Il serait raisonnable de ramener ceci à 60 jours, parce que je ne pense pas que beaucoup de gens prennent 120 jours de vacances.
60 jours, ce sont des quotas qui existent par exemple à Amsterdam.
Oui,
Amsterdam,
absolument. D'ailleurs, j'avais les références de l'étranger, il y a Amsterdam, et vous avez aussi sur New York aussi ce genre de restrictions. Pour les résidences secondaires, alors là, effectivement, la législation est beaucoup plus complexe. On distingue ce qu'on appelle les zones de tension, donc c'est de tension au point de vue de la location traditionnelle, si vous voulez. Donc les zones de tension sont surtout les grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux,
on va en parler.
Et puis, et où des zones très touristiques. Donc à ces villes-là s'ajoutent par exemple Cannes et Nice, qui ont pris au niveau des mairies un certain nombre de réglementations qui se juxtaposent ou qui se cumulent avec les dispositions légales législatives. Alors là, vous avez une règle, il faut donc faire un enregistrement auprès de la ville. Alors prenons Paris par exemple, c'est un cas assez complexe. Il faut donc demander une autorisation à la ville, et pour ce faire, pour obtenir cette autorisation, vous devez transformer votre résidence, donc secondaire, on parle bien d'une résidence secondaire, ou d'une résidence principale si vous louez au-delà de 120 jours, vous devez la transformer en logement servant à une activité commerciale.
Donc ça veut dire que vous devenez un professionnel.
On devient un professionnel et on fait en fait un chiffre d'affaires. On perd complètement la notion d'habitation bourgeoise traditionnelle selon ce que définissent la plupart des règlements de copropriété.
Alors maintenant que vous avez donné ce cadre, vous-même, vous vivez dans un quartier qui est concerné par cette problématique. Est-ce que vous avez pu observer dans le secteur du Marais, par exemple, une forte évolution dans le parc locatif ou le parc de logement?
Alors, dans les immeubles que je connais, ou à travers les voisins que je connais dans différentes rues du Marais, c'est une progression exponentielle. Et elle est d'autant plus exponentielle que la loi oblige une compensation. C'est-à-dire que si vous transformez une habitation, des mètres carrés d'habitation en commercial, j'allais dire, donc par les locations précaires de courte durée, vous devez compenser en acquérant et en transformant des mètres carrés de bureaux ou professionnels en logement, ou si vous n'avez pas ces surfaces disponibles, mètres carrés pour mètres carrés, j'entends bien, si vous n'avez pas ces surfaces disponibles, vous pouvez acheter auprès d'un professionnel des mètres carrés qu'il vous cède, en quelque sorte.
Alors, à côté de vous, donc nous avons Aurélien Malfait. Vous vous occupez, je l'ai dit en la présentation de cette émission, d'une plateforme de conciergerie autour de ces logements. La première question que je vais vous poser, elle est simple, c'est justement, est-ce que vous avez davantage aujourd'hui de demandes de services? Donc, ça traduirait une augmentation aussi du nombre de logements concernés.
Alors, évidemment, la société est en croissance. On a de plus en plus de propriétaires. Et ça veut dire qu'il y a un développement de l'activité de notre société, mais aussi d'Airbnb. Et l'idée, c'est pas de dire que tout s'est bien passé avec Airbnb et que tout a toujours été parfait. C'est vrai qu'il y a pu avoir à certains moments des abus et des quartiers qui se sont retrouvés avec peut-être un petit peu trop d'appartements Airbnb. Le premier auquel on pense, c'est évidemment le Marais. Voilà, c'est le plus emblématique. Simplement, depuis 2014, il y a une législation qui a été votée et qui est assez dure. Une résidence secondaire ne peut pas être mise en location, même un jour sur Airbnb. Imaginons que vous soyez italien, vous avez un pied-à-terre à Paris, il vous est impossible de louer ne serait-ce qu'une journée sur Airbnb. Si vous souhaitez louer toute l'année,
en tout cas.
Officiellement. Donc voilà, donc il y a la question de la régulation, de la législation qui est assez dure depuis 2014.
Donc ça veut dire que vous estimez que, d'ailleurs il y avait une tribune qui avait été publiée par vous et un certain nombre de vos collègues disant que oui à la régulation mais pas à la sur-régulation un peu.
Exactement, en fait, il y a eu cette régulation et peut-être qu'elle a mis un peu de temps à être appliquée. En revanche, là où j'ai un avis différent de monsieur, c'est que la mairie de Paris a pris les choses en main depuis 2 ans. Et on voit le nombre d'amendes qui a explosé, alors que ça a bien démarré en 2016 et ça a encore doublé en 2017. Et ils ciblent des multipropriétaires dans des quartiers justement comme le Marais. Et il y a un effet dissuasif très fort, c'est-à-dire que c'est des amendes qui peuvent être de 25-50 000 euros, multipliées par le nombre de logements en question. Et nous, on considère que depuis le début de l'année 2018, il y a eu un mouvement inverse et une certaine retour à la normale sur les choses. Et on arrive enfin à avoir un Airbnb qui cohabite de mieux en mieux avec les habitants.
Alors, si on regarde les chiffres qui circulaient, moi j'ai pu lire qu'il y avait à peu près 15% seulement des hébergeurs sur Paris qui seraient en conformité, c'est-à-dire qui se seraient déclarés. Donc ça voudrait dire 85% qui ne l'ont pas fait. Alors les chiffres datent peut-être un peu. Je ne sais pas si vous avez des données plus récentes, Aurélien Malfait.
Alors le dispositif d'enregistrement, pour le coup, il a été fait de façon assez simple à Paris. Donc là, si on reste sur Paris, il est assez facile à obtenir. Et c'est vrai que certains hébergeurs, parce que Airbnb ne l'a pas encore rendu obligatoire, parce qu'il y a une procédure en cours avec la mairie de Paris, certains hébergeurs continuent de louer sans ce numéro d'enregistrement. Nous, ce qu'on regrette un petit peu, c'est que donc on est présent au niveau Lucky Homes, on est présent au niveau national, dans des villes pour lesquelles il n'y a pas du tout ces problématiques-là de tension, plutôt des villes balnéaires, Megève ou Marseille, ce genre de choses.
Megève, c'est moins balnéaire.
C'est un peu moins balnéaire. Et en fait, chaque ville, on va vers un système où chaque ville peut mettre sa propre régulation, son propre numéro d'enregistrement, et en fait, on crée beaucoup de complexité. Et c'est ça qu'on regrette, c'est qu'en fait, la France est une terre d'accueil. On est le premier pays touristique en termes
première
de
destination.
Voilà, la première destination touristique. On sait qu'il y a des enjeux, il va y avoir les JO, et on aime bien recevoir des touristes. Et en fait, le mettre des bâtons dans les roues systématiquement et des réglementations au niveau local, on pense que c'est très difficile, c'est très dommage.
Alors Didier Arino, avec nous depuis la région bordelaise justement, je crois que vous résidez dans ce secteur. Bordeaux a été pas mal cité d'ailleurs comme une zone où le développement d'Airbnb pouvait devenir problématique. Vous le confirmez ?
Ça devient totalement problématique puisqu'il y a eu une multiplication par 4 des hébergements Airbnb dans le cœur historique de Bordeaux. Aujourd'hui, il y a plus de 8000 logements. Ces logements qui sont loués pour la clientèle touristique ont pour conséquence d'avoir une pénurie de logements pour les étudiants et pour les salariés. Et si on ne veut pas se retrouver dans un véritable risque de centre-ville déserté par les habitants et uniquement avec des clientèles touristiques comme c'est le cas dans le Marais, il y a nécessité de réguler tout cela. Et ça a pour conséquence aussi un rejet du tourisme par les habitants. Alors on n'en est pas là à Bordeaux, même s'il y a quelques petits mouvements assez isolés. Mais dès que l'équilibre est rompu entre l'activité touristique et une vie normale dans les quartiers, ça pose problème. Et bien évidemment, ce phénomène, il ne faut pas se leurrer, Airbnb ne décide pas de développer les territoires français. Ils vont là où ils pensent pouvoir gagner de l'argent relativement facilement, où il y a une demande aussi touristique, et ils viennent sur les plates-bandes des professionnels du tourisme avec une absence de régulation, parce que pendant des années, ils ont joué les vertueux en disant qu'en fait, ils louaient des hébergements, que c'était un complément de revenus pour des pauvres petits propriétaires qui n'arrivaient pas à payer leur fin de mois. Or, on voit bien, avec le développement de conciergerie, et c'est très bien au moins, ça crée au moins un emploi. Mais le développement de conciergerie montre bien que ce sont des investisseurs, et on est très éloigné, qui ne reçoivent plus du tout les touristes, les voyageurs, on est très éloigné de l'esprit qui était l'esprit initial où on accueillait un touriste chez soi en lui louant une chambre. D'ailleurs, un certain nombre de villes ont décidé de réguler de façon drastique. C'est le cas de New York, qui refuse qu'un logement soit loué si le propriétaire n'est pas présent.
Mais
et
est-ce
là, on fait véritablement
Didier,
dans l'esprit du collaboratif.
Oui, Didier Arino, est-ce que la ville de Bordeaux elle-même, par rapport à ce que vous nous décrivez, ces 8000 logements aujourd'hui dans le centre qui seraient dédiés à Airbnb, est-ce qu'il y a eu une réglementation locale qui a été prise ?
Alors, pour l'instant, la réglementation, d'abord, ils ont essayé de récupérer la taxe de séjour, ce qui est plutôt une bonne chose, et de ne pas s'opposer frontalement à Airbnb, mais d'essayer de réguler le système. Aujourd'hui, les propriétaires décident de le louer en Airbnb pour une raison simple, c'est que ça leur apporte beaucoup plus que de louer un étudiant. Donc comme ce sont des logements privés qui sont loués de la façon dont les propriétaires le décident, tant qu'il n'y aura pas des mesures beaucoup plus drastiques sur la durée de location maximale et sur une taxation, pourquoi pas une application de TVA sur ces logements, ben, les propriétaires continueront à aller vers ce qui est le plus facile.
A priori, c'est...
Une bonne part n'est pas déclarée, que tout le monde le sait, et que l'obligation de déclarer les revenus et que ce soit la plateforme elle-même qui le fasse pour le compte des propriétaires est une très bonne chose. Ça va permettre de réguler le système et ça va permettre au moins de rentrer dans le champ des revenus de ceux qui louent ces appartements. Et certains font du véritable business puisque certains ont plusieurs appartements, donc dans certains cas plusieurs dizaines d'appartements.
Alors a priori, un logement loué par Airbnb rapporterait deux fois plus à son propriétaire que s'il faisait de la location à long terme. Un quartier qui lui voit progressivement également débarquer les touristes en quête d'un Paris populaire et authentique, c'est Belleville. Belleville, rendez-vous par M, extrait de la bande originale du film Les Triplettes de Belleville.
Machine à clous, moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Je veux pas finir ma vie à 5.
Retour dans le débat de midi où nous interrogeons sur les conséquences du boom de l'hébergement touristique, une activité qui existe depuis de nombreuses années, bien avant l'arrivée d'Airbnb en fait en France en 2011, hein, avec les gîtes et les chambres d'hôtes. Nous avons interrogé d'ailleurs Christian Biancanello qui préside Clé Vacances, organisme qui labellise et accompagne les personnes développant ce type d'hébergement, pour savoir notamment ce qui les différencie des nouveaux acteurs.
Alors nous, l'humain est au cœur de nos labels hein, et de nos structures. Nous rencontrons les propriétaires et les propriétaires rencontrent les vacanciers. Le profil type, c'est l'hébergeur avec à 80% une seule location, plutôt un hébergeur en dehors des zones urbaines, en province, un hébergeur à la montagne, à la mer, et dans la campagne ou dans les milieux ruraux et semi-ruraux, mais plus en ville en tout cas. C'est l'arrivée des plateformes Airbnb, Booking, qui a révolutionné le paysage touristique, et on y est moins présent ou dans certains cas plus présent du tout.
Est-ce que globalement vous pouvez dire quand même que ça contribue à l'économie locale ?
Ah oui, totalement. Dans des secteurs moins favorisés, qui ne sont pas des grandes destinations, on a des territoires qui sont en milieu semi-ruraux, qui bénéficient de cet accompagnement de propriétaires et de ces hébergements, où là, on a pu développer finalement du tourisme pleine nature, avec des randonnées, du VTT, ou des thématiques qui font que des touristes ou des vacanciers viennent dans des endroits moins courus, on va dire. Un département que je connais très bien, qui est le Jura, on va avoir une zone touristique, je dirais, sur la montagne avec les stations. Après, une région des lacs qui n'est pas fréquentée, qui n'est pas urbanisée. Et là où l'activité touristique est dynamisée par le tourisme nature. Et là, on a un afflux maintenant de touristes qui recherchent autre chose que le bord de mer, l'été notamment. Et ça permet de revitaliser ces petits villages, ces petites communes, et ça apporte du chiffre d'affaires évidemment aux commerçants, aux restaurateurs, ça c'est évident. Sur un village que je connais très bien évidemment, on a 148 habitants au bord d'un lac dans ce département-là, et on a 32 gîtes location de vacances. Donc l'impact de la fréquentation touristique est très important. Et très franchement, s'il n'y avait pas cet impact-là dans ces milieux semi-ruraux, évidemment, au niveau économique, ce serait différent, quoi. On aide à faire la promotion de destinations. Alors les destinations fortes n'ont pas besoin de promotion, mais dans des destinations un peu moins fréquentées, ça permet de revitaliser les secteurs.
Le débat de midi sur France Inter.
L'hébergement touristique, on vient de l'entendre, peut avoir quand même des vertus pour l'économie locale. Est-ce que vous partagez ce constat, Claude Verrier ?
Alors, certainement, mais le problème n'est pas tant, ce que disait le précédent intervenant est très très juste, le système des gîtes et des chambres d'hôtes permet un contact avec les touristes et permet des échanges, certainement. Dans ces cas de ces locations précaires en milieu urbain, c'est pas du tout le cas. Ce sont des gens qui sont là pour une journée, deux journées, un week-end, maximum une semaine. Souvent, il y a un problème de langue, à part les anglo-saxons, mais asiatiques et russes parlent très peu anglais, donc ils n'ont aucun contact avec les résidents et les voisins. Ils sont très absorbés, et c'est normal, dans les centres touristiques importants, par toutes les visites qu'il y a à faire. Donc, ils sont pas présents dans l'immeuble, ils n'ont pratiquement aucun contact avec les voisins et les résidents de l'immeuble.
Mais est-ce qu'ils participent à l'économie locale ? Parce que ça peut être aussi... On voit qu'une des vertus mises en avant par Airbnb, c'est vous pouvez cuisiner, vous vivez comme chez vous, sauf que vous vivez chez les autres. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont contribuer à l'économie locale ?
Alors, probablement, ils vont aller au supermarché du coin ou à l'épicier du coin pour acheter de la nourriture. Mais je pense que le chiffre d'affaires qui est généré sur l'économie locale, pour les centres hyper touristiques, ne parlons pas des centres ruraux, isolés, ça c'est tout à fait autre chose. Je crois que c'est un chiffre d'affaires tout à fait petit, tout à fait par rapport à des touristes, par exemple, qui seraient en système hôtelier ou qui iraient plus fréquemment au restaurant midi et soir ou auraient, disons, un train de vie peut-être plus important que ces touristes-là, qui souvent ont des budgets, et c'est pas du tout une critique, mais des budgets restreints, et qui sont obligés quand même de faire extrêmement attention à leurs dépenses.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là on a des retours d'auditeurs qui nous ont envoyé des mails, là où qui réagissent. Vous pouvez d'ailleurs réagir sur Twitter avec le débat de midi, en hashtag. C'est que de dire, bah nous, ça nous permet de voyager, tout simplement, à moindre coût, et sinon on ne pourrait pas le faire. Aurélien Malfait, vous, sur l'impact de cet hébergement touristique type Airbnb.
Oui, alors déjà pour revenir sur le budget, aujourd'hui sur Airbnb on trouve de tout. Ils ont une nouvelle catégorie qui s'appelle Airbnb Plus et qui est relativement très haut de gamme, donc des voyageurs parfois asiatiques qui vont beaucoup dépenser. Et sur l'impact un peu plus global, en fait, on parlait en début d'émission de zéro marginal cost, l'absence de coût marginal pour la plateforme, mais c'est faux en fait. Des emplois sont créés, je pense notamment en termes de customer support, de service client par la plateforme, et qui a récemment ouvert un service dans le nord de la France dédié à ces opérations. Parce que c'est une des choses qui a fait le succès d'Airbnb. Finalement, Airbnb n'a rien inventé. Abritel était là bien avant. Et qu'est-ce qui a fait le Xus, qu'est-ce qui a fait ce raz-de-marée? C'est à la fois la facilité du produit, le fait que ce soit très facile de réserver, et aussi le service client derrière, donc que vous pouvez bénéficier d'une assurance en cas de problème, que vous ayez une assistance si jamais il y a un petit souci avec votre hôte qui devait annuler la réservation. C'est tout ça qui font la force d'Airbnb.
Donc ça, c'est du côté de l'hébergeur. C'est une garantie pour l'hébergeur. Exactement. Des hébergeurs d'ailleurs qui nous écrivent également pour nous dire, ben, eux, ça leur fait une source de revenus non négligeable aussi.
Une source de revenus. Et j'allais ajouter, il y a tout l'écosystème qui s'est créé autour d'Airbnb, parce que évidemment, nous, notre client type chez Lucky Homes, c'est la personne qui va partir, par exemple, pour 6 mois, faire un tour du monde. Et effectivement, c'est dur de gérer la logistique, la remise de clés, le ménage. Et c'est dans ce sens-là qu'on constate certes une professionnalisation, mais en fait qui n'est pas néfaste, parce que c'est des appartements qui auraient été pour la plupart vides si nous n'avons pas été là. Et donc en fait, on intervient pour faire les rotations
entre les
voyageurs.
Vous pensez pas que c'est pas marginal, ça, le fait de dire les appartements, si on les louait pas comme ça, ils seraient vides, ils pourraient être occupés par des locataires longue durée également?
Quand c'est des personnes qui s'absentent pour 3 mois, pour 6 mois, ce qui est une grande partie de nos clients, en fait, on trouve que le système est plutôt sain, parce que c'est des appartements non occupés qui viennent à être occupés par des touristes. Donc là, on est plutôt dans un rôle où on va renforcer la vie de quartier. C'est la même chose où, en fait, il y a un cycle. Et généralement, les gens mettent leur appartement sur Airbnb pendant les vacances. Donc c'est quand ils quittent leur quartier, et on le voit beaucoup au mois d'août, qu'ils partent en vacances, que les touristes arrivent, et donc, entre guillemets, ça équilibre. Donc l'impact, en fait, au global, nous, on le trouve plutôt positif. Et si on prend en compte tout l'écosystème qui s'est créé autour, et les sociétés de conciergerie comme Lucky Homes, nous, aujourd'hui, c'est 40 emplois à Paris.
Vous êtes présent dans 17
voilà.
villes, à peu près, c'est
on a 25
ça
villes. 25 donc, on est présent en France et à l'étranger. Donc, on a 25 villes avec des city managers locaux qui travaillent dans chacune de ces villes. Et derrière, on fait appel, évidemment, à beaucoup de sous-traitants pour la remise de clés, pour la gestion du ménage. Donc, en fait, c'est tout un écosystème avec des populations parfois pas les plus favorisés. Je pense aux personnes chez nous qui font le ménage, à qui on a permis de redonner un emploi, et c'est des métiers qui sont pas délocalisables. Une femme de ménage qui nettoie un appartement, vous n'allez pas pouvoir la délocaliser. Et à la différence d'une chambre d'hôtel qui va se nettoyer en 15-20 minutes, un appartement, ça va plutôt prendre 2 heures. Donc c'est du métier qui vraiment crée de la main-d'œuvre sur des secteurs assez peu qualifiés.
Didier Arinaud, vous qui êtes un professionnel des études sur le tourisme notamment, on a beaucoup de témoignages qui nous disent également, des gens qui nous disent ça a permis de remettre en cause un peu aussi l'hôtellerie, parce que y avait des abus, le standing n'était pas toujours à la hauteur, les prix pouvaient être prohibitifs, et Airbnb nous permet d'abord de pouvoir voyager, et surtout à obliger les hôteliers à revoir un peu leur offre. Vous êtes d'accord?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Ça permet aussi à des familles, à des gens qui partent et qui sont nombreux, de pouvoir avoir une réponse à un besoin, alors que l'hôtellerie, souvent, ne propose pas de réponse adaptée. Il est vrai aussi qu'on a besoin de différentes formes d'hébergement. Il y a une génération qui arrive, qu'on appelle les millennials, qui utilisent des hébergements Airbnb, qui utilisent du Blablacar, qui utilisent les plateformes, qui utilisent Uber plutôt que les taxis. Donc c'est une évolution de la société, ça répond à un besoin. C'est tout à fait indéniable, et Airbnb a sa place dans le concert des offres touristiques.
Mais alors, sa place, est-ce qu'elle doit être davantage organisée, en fait? C'est la question.
Eh bien, c'est ça. En fait, le seul problème, c'est d'organiser sa place et de maximiser les retombées. Quand on dit que ça crée de l'emploi, bien sûr, tout crée un peu d'emploi, mais s'il s'agit de récupérer les miettes, ça n'a aucun intérêt. Une chambre de palace, c'est 2,5 emplois. Pour Airbnb, quand on parle de la femme de ménage, la pauvre, elle va passer 2 heures dans un appartement, L'autre appartement est peut-être à 2 ou 3 kilomètres. Elle va devoir prendre les transports en commun pour aller au deuxième appartement, etc. Donc ce ne sont pas des emplois qui sont des emplois durables. Il y a beaucoup d'emplois précaires. Alors bien sûr, il y a quelques entreprises qui peuvent faire les choses bien, mais c'est tout à fait ridicule par rapport au volume global des 300 000 logements Airbnb. Donc ça a une utilité, c'est vrai. C'est important d'avoir ce type d'hébergement, y compris dans les villes. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on puisse générer des déséquilibres et qu'il n'y ait pas que ces hébergements ne contribuent pas à la hauteur à notre système social, à notre système économique. Et c'est là qu'il y a une contradiction, parce que le citoyen, il veut tout un prix plus bas, il veut une dérégulation, mais lorsqu'il est salarié, il veut plus de régulation, il veut plus d'avantages sociaux, il veut moins de contraintes lorsqu'il est consommateur. Donc on est tous dans ces contradictions, mais il faut essayer de les limiter. Et le rôle, c'est, on ne développe pas du tourisme pour se faire plaisir. Moi, je l'ai dit très clairement, le tourisme n'est intéressant qu'à partir du moment où il permet à la population de vivre au pays, où il permet de générer un maximum de retombées économiques et un minimum d'impact social et environnemental.
Je voudrais faire réagir Aurélien Malfait, donc avec votre plateforme de conciergerie. Quel est le statut des gens qui travaillent avec vous ? Là, on entendait Didier Arinaud qui nous disait c'est pas comparable. Dans un palace, une chambre, elle fait travailler 2 personnes et demie. Dans les locations de type Airbnb, c'est de l'emploi précaire.
Alors, c'est l'emploi freelance, mais pour moi, je le différencie de l'emploi précaire. C'est des gens qui sont la plupart, si on prend ce qu'on appelle chez nous les welcomers, donc c'est les personnes en charge de l'accueil.
Alors, on rentre dans le jargon du start-upper.
Voilà, c'est les personnes qui vont faire la remise de clés et accueillir les voyageurs, parce qu'on accueille systématiquement les voyageurs de façon physique, c'est très important. Ça permet d'avoir beaucoup plus de respect pendant la durée du séjour, quand on les a envie physiquement. Et ces personnes-là, en fait, le profil type, ça va être un étudiant qui a quelques heures de cours à la fac, et qui fait ça, entre 10 et 15 heures par semaine, un peu comme il pourrait livrer des pizzas ou ce genre de choses. Et donc, il a une application, il a l'application Lokihomes, où il va s'inscrire et aller à un ensemble de missions disponibles, où la rémunération est indiquée selon ses disponibilités. Et il décide de faire ses missions en toute autonomie. Ensuite, il est payé.
C'est quoi la base de la rémunération ?
Alors, la rémunération dépend des villes, et ça va généralement, c'est autour de 15 euros pour une remise de clé. Sur ces 15 euros, vu que c'est en auto-entrepreneur, il faut appliquer environ 20% de charges sociales. Un check-in, ça peut vous prendre 15 minutes, comme ça peut vous prendre 1h30 si les voyageurs sont en retard.
Voilà. D'accord, donc avec le statut d'auto-entrepreneur, ou maintenant il faut dire micro-entrepreneur. Donc ça veut dire que vous ne payez pas les charges sociales, c'est la personne qui travaille.
C'est la personne qui travaille. Pour les profils de société de ménage, là c'est un peu différent. Ce sont vraiment des personnes professionnelles, et on a des belles histoires qui sont créées chez nous, des personnes qui ont démarré comme micro-entrepreneurs et qui ont l'occasion de développer leur société de ménage, ensuite de pouvoir recruter. Et à nouveau, ça diffuse sur l'ensemble de l'économie. Et c'est des gens qui, maintenant, des sociétés avec 3-4 personnes qu'ils ont recrutées. Là, c'est plutôt des SAS. Voilà. On a voulu garder ce fonctionnement avec des freelances, parce que pour nous, ça va dans la logique du temps, parce que chaque personne peut être évaluée après une mission, et c'est pas de l'arbitraire, ça permet de garder les meilleures personnes et d'assurer la qualité de service avec une évaluation permanente et d'être sûr qu'on garde des gens motivés.
Voilà. Claude Verrier, vous qui défendez, c'est Vivre au Marais, votre association, oui. Vous qui défendez ce secteur, est-ce que le secteur du Marais lui-même, on parle de gentrification souvent, de secteurs gagnés par une population qui n'était pas celle du secteur et qui l'a modifié, est-ce qu'elle n'était pas déjà en cours avant même Airbnb ?
Alors, il est vrai qu'effectivement le secteur du Marais a profondément changé de sociologie, de population. Ça, c'est évident, et ça a commencé il y a une trentaine d'années, notamment quand il y a eu, vous savez, les grandes campagnes de ravalement, de Malraux, des hôtels particuliers, etc., où les ateliers un petit peu clandestins dans des cours de fourrure, de couture, etc., ont été pourchassés parce que souvent construction illégale. Et donc, il y a eu effectivement, j'allais dire, un embourgeoisement probablement du Marais, surtout le 4e arrondissement. Mais ça s'est beaucoup accéléré, et dans le mauvais sens à mon avis, avec ce phénomène des locations précaires et des locations saisonnières. Parce que un certain nombre de gens ont joué la rentabilité, et des gens qui s'étaient installés dans le Marais l'ont quitté, pour aller dans d'autres arrondissements ou en périphérie, je ne sais pas, pour pouvoir faire de location. Et là, je crois qu'il y a un consensus entre nous tous, c'est que en fait, le principe n'est pas condamnable. Bien sûr que c'est important. Heureusement. Là n'est pas la question. La question, c'est en fait le manque d'encadrement et le manque d'équilibre, si vous voulez, entre cet afflux massif d'appartements dans un quartier, où tout à coup on s'aperçoit dans un immeuble, et c'est le cas de mon immeuble, où il y a 15% maintenant de sociétés ou de particuliers qui louent, et que bientôt, si le phénomène continue, les résidents permanents vont devenir minoritaires. Et là, les règlements de copropriété sont mal armés pour ça, parce que ce sont des règlements qui ont été faits il y a des années et des années.
Mais vous, vous êtes juriste d'ailleurs, oui, au départ. Oui, oui. Justement, est-ce qu'il n'y a pas des règlements aujourd'hui de copropriété qui permettent d'éviter cela?
C'est-à-dire que les règlements de copropriété ont été faits souvent à la construction de l'immeuble ou à la mise en vente des appartements dans les immeubles. Donc ils datent du 50 ans, 40 ans, 30 ans, où le phénomène n'existait pas. Donc ces règlements n'ont pas anticipé ce problème. Il y a un moyen de l'encadrer, de le réguler, parce que vous savez, changer un règlement de copropriété, c'est une unanimité, c'est extrêmement compliqué et c'est quasiment irréalisable. Mais on peut, par le biais des règlements d'intérieur, voter en Assemblée Générale à l'article 25, qui peut s'imposer, on peut quand même créer un cadre juridique de bon comportement pour les gens extérieurs à l'immeuble et aussi pour les gens résidents permanents de l'immeuble qui habiteraient là, même pour un week-end ou pour une semaine. Et ça, c'est un moyen peut-être d'endiguer un peu les excès, parce que les incivilités dans les immeubles sont incroyables. On pourrait faire vraiment, et là je crois que les loueurs manquent peut-être de consignes et de discipline à pas imposer, mais à suggérer à leurs clients, parce que on voit des choses assez insensées. Des gens qui laissent des sacs poubelles devant la porte palière parce qu'ils ont la flemme de descendre en bas, qui jettent des mégots par les fenêtres, qui font les valises roulettes. Alors qu'est-ce que ça peut faire du bruit la nuit, les valises roulettes, avec les arrivées tardives d'avion? Celui qui inventera des valises roulettes qui font pas de bruit, il fera fortune. Bon, du linge qui sèche aux fenêtres, enfin, on voit des choses ahurissantes.
Est-ce que c'est pour autant juste l'apanage des touristes arrivés par Airbnb? J'en suis pas persuadé. Tala yolo jana ale mason segima Nderini, nderini ngabe disa Nijarabi, mbafe ganyalo nyehala Nderini, nderini ngabe disa Nekanua, I want to know We'll be right back. Certains tentent de voyager à travers les continents et les pays, non pas pour faire du tourisme, mais tout simplement pour tenter de survivre. Un hommage aux migrants rendu en Bambara par la chanteuse et actrice malienne Fatoumata Diawara avec Nterini. Dernière partie de ce débat consacré aux conséquences de l'hébergement touristique avec une question finale et directe à nos invités. Doit-on envisager tout simplement une interdiction pure et simple d'Airbnb dans les zones qu'on qualifiait tout à l'heure de zones de saturation? Votre avis sur le sujet, Didier Arinaud, où vous êtes au téléphone?
Alors moi, de toute façon, je suis contre les interdictions. Ça n'a pas de sens. Si c'est pas Airbnb, il y aura des propriétaires qui loueront via d'autres plateformes ou d'autres systèmes. Donc il ne faut pas imaginer de façon illusoire. En revanche, ce qu'il faut essayer de faire, c'est réguler. Et déjà que la rentabilité de ces logements soit plus faible, beaucoup plus faible, pour qu'un certain nombre de logements reviennent sur le marché, pour des salariés, pour des étudiants, pour des familles. Et c'est très important, tant qu'il y aura une telle rentabilité. De la même façon, il s'agit aussi de plus taxer ces plateformes. Aujourd'hui, c'est une économie totalement artificielle dans laquelle on a d'un côté des précaires, des gens qui sont en auto-entrepreneurs, et d'un autre côté, des plateformes qui ont des rentabilités monstrueuses. Dans le secteur du tourisme, on crée un emploi pour 80 000 euros de chiffre d'affaires. Or, ces plateformes créent un emploi pour 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vous imaginez le delta. C'est peu contributif à notre économie, à notre création d'emplois. Et je rappelle juste une chose, on est quand même un pays où on a un taux de chômage tout à fait considérable. Et ce que l'on doit privilégier en matière de tourisme, ce sont les modes d'hébergement, les secteurs qui génèrent de l'emploi. Et tant qu'on ne régulera pas de façon aussi plus forte, on pourrait imaginer ne pas pouvoir louer plus de 90 jours par an, voire 60 jours dans les zones en tension. Et là, croyez-moi, Airbnb ne fera plus de la France son fromage. Car c'est le pays le plus rentable pour Airbnb, car nous sommes une destination touristique. Nous accueillerons 100 millions de touristes supplémentaires en Europe dans les années qui viennent. Et donc, il faut qu'en parallèle, on puisse développer d'autres formules d'hébergement, que Airbnb continue à vivre. C'est tout à fait logique. Ils ont ici, et c'est innovant, ils proposent un service et une prestation, mais qu'on les taxe un peu plus, qu'on régule, qu'on ait une certaine équité, et qu'on participe à notre système social.
On va faire réagir également Aurélien Malfait. Votre avis, est-ce qu'il faut interdire Airbnb sur ces zones de tension ou, comme le dit Didier Arinaud, tout simplement mieux réguler? Et si oui, comment?
Alors, interdire Airbnb, certains l'ont fait. C'est notamment Berlin qui l'a fait il y a environ 2 ans et qui est complètement revenu en arrière. Aujourd'hui, vous pouvez à nouveau héberger sur Airbnb à Berlin. Et ce serait dommage d'arriver à des positions extrémistes parce qu'on se rend compte que ça répond à un besoin, c'est une tendance de fond, c'est une vague, c'est un raz-de-marée. Et il faut plutôt l'accompagner. Depuis quelques années, il y a eu un empilement de couches. On a changé la réglementation, on a changé la fiscalité. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est plutôt d'un petit peu de stabilité et à partir du cadre qui a été défini, qu'il soit appliqué. Parce que malgré tout, Airbnb a un impact favorable sur l'économie. On n'a pas parlé de la taxe de séjour. Airbnb était moteur pour collecter et reverser la taxe de séjour. Donc il y a beaucoup de points comme ça. Et donc oui, moi je suis plutôt pour un développement mesuré d'Airbnb. Dernier point à ajouter, c'est que les plateformes vont être obligées de transmettre au fisc les données des propriétaires à partir de 2020. Donc tous ces revenus, si ce n'était pas le cas, seront fiscalisés. Donc voilà, les outils ont été mis en place. Maintenant, il faut juste que le donner un peu de temps pour que ça rende les choses rentrent en place.
Il faudra juste voir si Airbnb donne leurs propres données aux fiscales, parce que je crois que c'est 100 000 euros d'impôts en France pour la plateforme. C'est quand même assez ridicule par rapport au chiffre d'affaires qu'il doit avoir. Claude Verrier, est-ce que vous estimez, vous, que chez vous, dans le Marais, il faudrait maintenant interdire Airbnb?
Alors, moi, je suis contre le principe d'interdiction. Je pense qu'effectivement, il faut développer des formules nouvelles. Par contre, comme par exemple, ça s'est passé à Lisbonne en 2014, il est possible peut-être d'avoir des pourcentages de quotas d'appartements par arrondissement, enfin les arrondissements ou les villes sous tension extrême, évidemment, de quotas. Et au-delà de ces quotas, ne plus donner d'autorisation. Ça, je pense, c'est le premier point.
Donc limiter le nombre de logements qui sera un pourcentage, un taux,
par rapport aux résidents permanents. Mm-hmm. Alors ça pourrait être une première piste. Il y a une deuxième piste aussi, c'est que il y a une évasion fiscale monstrueuse, parce que on sait bien qu'il y a une zone grise ou une zone noire d'activité en la matière. Elle a été chiffrée par la DIL autour de 600 millions d'euros quand même par exercice budgétaire.
Sur la ville de Paris,
pour la France, pour toute la France.
Non, ce que vous avez dit pour la ville.
Non. Ils ont fait une étude nationale. Donc c'est considérable. Et alors sur la les taxes. Je crois que mon prédécesseur, qui est intervenu tout à l'heure, a raison. Soit il faudrait imposer la TVA, soit, mais il faut revenir sur un système qui est beaucoup plus fort en taxation, parce que il y a tellement d'avantages avec, vous savez, les niches fiscales, le système BIC sur lequel on peut avoir droit avec 50% d'abattement, etc., qui font que c'est très rentable de faire de la location saisonnière.
Merci à nos invités, donc Didier Arino, directeur général de ProTourisme, l'agence conseil dans le tourisme, Claude Verrier, donc vice-président de l'association Vive le Marais, et puis Aurélien Malfait, dirigeant cofondateur de Leke Homes, plateforme de conciergerie.